Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. C'est ainsi que démarre ce texte que nous allons lire, parce qu'on a eu un focus que sur une partie du texte, dans la rencontre des deux frères, et qui introduit, je pense, un des textes les plus connus de la Bible, en tout cas chez bon nombre de chrétiens. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le texte? En fait, je vous emmenais avec moi dans ce que je fais régulièrement à Amiens, c'est-à-dire cette lecture grattée, que moi j'affectionne particulièrement du texte, avec une explication du texte par le texte. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce texte que nous connaissons souvent? Comment les auditeurs de l'époque de Jésus ont-ils reçu cette histoire? Parce que je suis pratiquement sûr et certain que notre regard sur ce texte est un regard moderne, occidental. Et que parce que nous portons sur ce texte un regard occidental et moderne, nous passons à côté du texte. Et je sais bien qu'on n'aime pas trop écrire dans nos Bibles, mais si j'avais un conseil à donner, c'est de rayer le titre qui est donné à cette portion du texte. Et vous allez voir pourquoi. On va lire à partir du verset 11 du chapitre 15 de l'Évangile de Luc, jusqu'au verset 37. Jésus dit encore, ça vient s'inclure dans une série de paraboles qui sont données, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu. » Et il est retrouvé. Un homme avait deux fils. Deux fils. Deux attitudes différentes. Et le premier à entrer dans l'histoire, le premier que nous rencontrons dans l'histoire, c'est le plus jeune. Le premier à apparaître dans ce texte, c'est le fils cadet. Un fils qui ne respecte rien. Même pas son père. Même pas les traditions. Un fils qui est occupé, est plus préoccupé par ses propres désirs et envies que par le reste. Et cette réalité va apparaître dans le texte avec une petite demande qui n'a l'air de rien dans le texte, comme ça, qui est tout début, au verset 12, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » petite phrase qui part comme ça, comme une fusée, là, et pourtant qui est si riche. Si notre regard moderne voit dans cette phrase un désir d'émancipation, un désir de liberté, un désir de faire la fête, d'être libre, cette phrase est pour les auditeurs de Jésus une bombe. Le désir d'émancipation n'existe pas à l'époque. Ça ne fait pas partie du vocabulaire. Dire à son père que l'on souhaite sa part d'héritage, c'est, et ça a été dit dans la petite pièce, là, c'est l'enterrer vivant. C'est le considérer comme mort, et cette demande, somme toute basique, là, comme ça, du fils cadet, ne peut pas être perçue par les gens de l'époque de Jésus autrement que comme une marque de rejet du Père, une marque de rébellion. Sa demande, elle est intéressée. Donne-moi du fric. C'est ça qu'il y a dedans. C'est même pas partage tout, c'est donne-moi de l'argent. Je veux du cash, papa, maintenant. Je veux tout le cash qui me revient, maintenant. Le fils cadet réclame les biens du père, mais il ne veut pas de son père. Il veut ce qui lui rapporte dans la relation avec son père. Et on est très surpris de la demande du fils. Mais s'arrêter sur la demande du fils, c'est une erreur. Ce qui devrait nous interpeller maintenant, c'est la réaction du père. Ou plutôt, l'absence de réaction du père face à la demande de son fils. Car le papa de la maison a le droit pour lui. Il a la loi pour lui, n'est-ce pas ? Agir en tant que fils de la sorte envers son père porte un nom dans la loi de Moïse. Ça s'appelle maudire son père. Et dans la loi de Moïse, maudire son père, c'est condamné. C'est condamné par la peine de mort. Lévitique, chapitre 20, verset 9. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. S'il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Lorsque le fils vient et dit « Papa, t'es mort pour moi, donne-moi le cash », il maudit son père. Et le père aurait pu invoquer ce texte du Lévitique. Il aurait pu, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il aime son fils. Et le texte nous dit quoi ? Le texte nous dit qu'il partagea ses biens. Alors pour mieux comprendre ce que ça implique dans cette parabole, il va falloir qu'on quitte le français pour rentrer dans le grec. Parce que si on ne va pas dans le grec, on passe à côté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Lorsque le fils dit « Papa, donne-moi mon héritage », il emploie un mot grec qui est « ousia », l'héritage, la possession, le bien. Et le père va partager ses biens, n'est-ce pas ? C'est dans le texte. Sauf que le mot « bien » à ce moment-là n'est pas « ousia », c'est « bios » en grec. Et « bios » en grec, Jésus l'utilise très souvent pour parler de la vie. Et si on relit le texte avec les mots grecs, le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de tes possessions qui doivent me revenir. » Le père leur partagea alors ce qui lui était nécessaire pour vivre. Ah ouais, la parabole prend d'un coup une autre tournure. Pour donner à son fils, hors la loi, ce qu'exige la loi, c'est-à-dire un tiers de toutes ses possessions parce qu'il est le cadet, le père va devoir se mettre en danger. Il va devoir vendre ses propriétés. Parce que l'homme est un propriétaire terrien. Et on le sait dans le texte, pourquoi ? Parce qu'il y a une distinction à faire entre le serviteur et l'ouvrier. Le serviteur, c'est celui qui est attaché à la maison, au service de la maison, qui loge dans la maison du maître et qui participe au bien du maître. L'ouvrier, c'est celui qui habite le village à côté et qui vient quand il y a besoin de lui pour travailler dans les champs, c'est le saisonnier de l'époque. Et l'homme a manifestement des ouvriers, nous apprend le texte. Ce qui veut dire qu'il a des possessions, des terres. Or, quand le fils demande le tiers de son héritage, il demande du cash, et il ne demande pas juste le tiers du compte en banque ou du livret A, Il demande le tiers de toutes les possessions. Il va falloir que le Père convertisse en espèces sonnantes et trébuchantes les terres qu'il a. Il va lui falloir qu'il vende pour cela. Et il va toucher à son nécessaire. Il va devoir abandonner ce qu'il a pour satisfaire à la demande de son fils. Il va falloir qu'il renonce à son honneur pour satisfaire à la demande de son fils. Lui, le propriétaire terrien, va devenir du jour au lendemain locataire. Locataire. Alors non seulement le fils maudit le père, mais en plus il va déshonorer aux yeux de tout le monde son propre père. Et à ces instants-là, nous ne percevons à aucun endroit dans le texte une quelconque rancœur ou rancune du père envers son fils. Et nous ne voyons pas non plus chez le fils cadet le moindre remords ou la moindre inquiétude pour l'avenir du père. Il prend ses biens, et d'ailleurs c'est intéressant, il lui a fallu quelques jours pour récolter tout ça, et il s'en va et il dépense tout. Comment ne pas se retrouver dans ce personnage un petit peu ? À chaque fois que nous mettons en avant notre indépendance, à chaque fois que nous pensons être les maîtres de notre vie, nous agissons envers notre Père Céleste de la même façon que le fils cadet le fait avec son père. Et le voilà parti au loin. Le fils va quitter le cocon familial, on l'a vu, ça a été dit dans ma petite pièce, pour vivre selon ses codes à lui, ses envies, vivre son indépendance, se faire des potes, dépenser plein de trucs, faire la fête, aller en boîte, tout ça. Vivre en étant totalement indépendant du père jusqu'au jour où il n'y a plus rien dans le porte-monnaie et qu'il est face à lui-même, jusqu'au jour où, au bout du rouleau, il va prendre conscience de ses actes. Et c'est très intéressant ce texte, en tout cas cette première partie du texte, parce qu'on voit le fils mettre en place une stratégie de survie. Hein. La stratégie de survie, c'est que déjà il voit que les cochons ont des trucs à manger, il aimerait bien aller les manger, mais il y a quelque chose qui l'en empêche, vous avez remarqué ? Ça ne l'a pas gêné d'aller piquer les trucs de son père, mais ça l'empêche, ça le gêne d'aller piquer les trucs dans les auges des cochons quand même. Hein, et le texte nous dit qu'il n'ose pas, il ne peut pas en manger parce que personne ne lui en donnait. C'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un petit peu de morale. Il y a un petit quelque chose chez cet homme-là. Il n'est pas totalement foutu, quoi. Et là, il pense à sa maison, il pense à ce qu'il y a chez lui, il pense aux serviteurs et aux ouvriers chez son père qui, eux, vivent dans l'abondance. Et il va mettre en place une stratégie de survie qui va passer par une démarche de confrontation. Cette démarche de confrontation, elle démarre par le fait que je vais retourner chez mon père. Et puis, une fois que j'y serai, je vais admettre mes torts. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je vais donc aussi accepter les conséquences de ma démarche. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et enfin, vient cette demande, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. La requête se veut très précise parce que l'homme justement fait la distinction entre le serviteur et l'ouvrier. Il ne demande pas la meilleure place dans la maison, il demande la plus petite, celle de l'ouvrier, celle de celui qui habite à l'extérieur de la maison, celle de celui qui est utilisable comme saisonnier, mais aussi et surtout il utilise volontairement la demande de devenir un ouvrier parce que l'ouvrier perçoit un salaire. Et là dans notre tête on se dit « Ah hein ?» Le grand méchant, quoi. Il veut encore arnaquer son père. Ben non. En fait, il veut être ouvrier parce qu'il sait que la démarche demande réparation, la réparation demande remboursement, et pour rembourser, il faudrait peut-être avoir un salaire. Et donc, son objectif, c'est de rembourser son père en étant un ouvrier dans la maison de son père. Il accepte de ne pas avoir de statut particulier, mais de recevoir un salaire. Et c'est là que le changement chez le fils cadet se voit. Lui qui a pillé les biens, lui qui a maltraité l'honneur de son père, revient avec une demande qui n'est pas cette fois motivée par l'appât du gain, mais par une prise de conscience du prix de la dette, du désir de réparer la dette, et parce qu'il sait qu'il doit rembourser ce qu'il a pris à son père. Et il s'engage dans un processus de restauration. La stratégie est bien ficelée, tout est en place dans sa tête et le voilà parti sur la route, il marche et il va vers la maison. Sauf que il ne s'attendait pas du tout à la réaction de son père. Ni lui, ni les auditeurs du temps de Jésus, hein, d'ailleurs, qui ont été surpris. Parce qu'on l'a lu dans Lévitique, il n'y a aucune excuse pour celui qui maudit son père. Et donc, quand l'homme s'approche de la maison et qu'il voit son père venir courir à lui, la démarche est complètement inhabituelle du papa. Elle est inhabituelle pour le fils, qui est un peu pris de court, on va voir, mais elle est aussi inhabituelle pour ceux qui sont en train d'écouter ce que Jésus raconte. Parce que c'était inconvenant pour un papa de courir au devant de son fils. Parce qu'à l'époque, Lewis n'avait pas encore fait des jeans et que courir en robe, ça demande donc un peu de pratique et surtout une technique. Et la technique, c'est de relever les pans pour courir. Et en relevant les pans, je montre mes jambes et montrer mes jambes, c'est montrer une nudité, et montrer une nudité, c'est inconvenant. Et le père va franchir les codes sociaux pour aller au-devant de son fils, il va faire ce qui est inconvenant pour aller au-devant de son fils. Je sais, on a une lecture moderne de cette parabole, bien souvent. Et il va courir au-devant de son fils en relevant sa petite robe comme ça, on imagine la scène. On imagine la tête du fils qui dit « Mais c'est qui lui qui vient là comme ça ?» Et le père vient saisir son fils. Qu'est-ce qui pousse cet homme à agir ainsi au-delà des convenances? Qu'est-ce qui pousse ce père à oser franchir les barrières de la tradition, du code social de l'époque, pour aller au-devant de son fils? Alors bien sûr, on va me répondre son amour. D'accord, c'est vrai. Mais pas que. Mais pas que. Quand cet homme sort devant son fils en tenant sa robe et en courant vers lui, il le fait aussi par protection. Il est en train d'envoyer un message à tous les villageois qui sont autour. Il leur envoie un message en disant « Moi, je vais pardonner, j'ai remis sa dette. Personne n'y touche. » Parce que comme l'homme vient de transgresser un des plus gros codes de la loi de Moïse, n'importe quel villageois qui tombe dessus et qui le voit revenir en haillons peut le prendre et le lapider sur le champ, la loi de Moïse étant pour lui. Et le père, en sortant, quand il prend son fils dans ses bras, empêche que la loi s'applique sur son enfant. C'est plus que de l'amour. C'est de la sauvegarde. C'est l'amour avec un grand A qui vient envoyer un message énorme aux gens autour où le père dit « Mon fils qui était là n'a plus de dette envers moi, je lui ai pardonné. » Imaginez les yeux de ceux qui écoutent Jésus à ce moment-là. Ça a dû être une vraie bombe, ça aussi, dans leur tête. Ce message que le père envoie, c'est donc qu'il a remis sa dette. Et lorsqu'il vient à la rencontre de son fils, c'est pour le protéger contre la mise en œuvre de la loi mosaïque qui le condamne à mort. Et aucune explication ne saurait changer cette condamnation. Même si le fils dit « Ah là, vous savez, j'ai fait un truc, j'ai pas pensé à mal, ou j'ai pas fait exprès, ou j'ai pas vraiment réfléchi », qu'importe, il n'y a pas d'explication. Tu l'as fait, tu as maudit ton père, tu meurs. C'est ainsi. Et le père protège son fils en lui remettant sa dette, et le fils vient repentant. Pourquoi ? Et c'est là aussi où le texte a un double sens, c'est que le fils est confiant dans l'amour de son père, parce que aucun enfant de cette époque ne serait retourné vers son père et aurait pris le risque d'être lapidé s'il n'avait pas eu confiance dans l'amour de son propre père. Et là, d'un coup, c'est bizarre, il y a des relents de la croix, il y a des relents de l'amour du père pour nous, il y a des choses fortes dans cette parabole qui transparaissent d'un coup pour nous là, et qui parlent de grâce. Parce que c'est une parabole de la grâce. Comment ne pas alors se souvenir des paroles que Jean nous laisse dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous reconnaissons nos péchés. Et le fils est pris de court par la réaction du père. Il ne s'y attend pas dans le texte. D'ailleurs, vous voyez, il ne va pas jusqu'au bout. Il n'a pas le temps d'aller au bout de sa demande. Il est court-circuité par son père, n'est-ce pas ? Il se lance dans une explication, et il est en pleine explication quand le père dit « Oh, les serviteurs, venez, venez !» Et mettez-lui la robe, mettez-lui l'anneau, mettez-lui les sandales, allez chercher le veau gras. Et là, le fils ne comprend pas. Lui, il a juste demandé à être ouvrier. Juste. Et les deux choses s'entrecroisent. La demande de réparation du fils, la repentance du fils et la restauration du père. Les deux choses s'entrecroisent avec une force énorme. Et voilà le jeune enfant réintégré dans la famille, sans devoir racheter quoi que ce soit. Et là, le fils cadet vient d'apprendre une chose, l'amour de son père ne s'achète pas. Il ne se mérite pas. Il se reçoit comme un cadeau. Et il se prend. Et il se vit. Nous touchons là au message de l'Évangile, au cœur de l'Évangile. Le salut par la grâce, et par la grâce seulement. Quelle merveilleuse parabole, n'est-ce pas ? Quel texte formidable. Sauf qu'il y a un absent. Il manque un personnage. Il manque le frangin qui a disparu quelque part pendant ce temps-là. C'est un bon petit gars, le fils aîné. Hein. Toujours avec son papa. Hein. Il respecte le père, lui, au moins. Pas comme l'autre. Il respecte le code familial. Lui, il ne demande rien. Hein. Il ne demande rien. Il ne maudit pas son père. Et puis quand le fils cadet revient, bah lui, il est toujours là quand même. Ça fait effectivement un paquet de temps qu'il est là. On ne sait pas trop si ça fait 10 ans, mais ça fait un paquet de temps qu'il est là, qui trime à la maison, qui fait ce qu'il peut pour aider papy ou papa. Alors, et si on arrêtait de lire la Bible avec des yeux de bisounours ? Ce serait pas mal. Et quand on regarde le texte autrement. J'invite avec moi à prendre le verset 12. Versets 11 et 12. « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père, regardez bien, leur partagea ses biens. » Pourquoi on pense qu'il n'y a que le fils cadet qui a chouré des trucs à son père, hein ? Le fils aîné, il reçoit. Hein ? Il prend. Hein ? Il ne dit pas « Oh là là, oh, oh papa, oh, oh, t'es pas encore mort. Oh. » Dans deux secondes. Non, il prend. Le père leur partagea ses biens. Complicité larvée, mais complicité quand même. Hein. Il reçoit l'argent de papa comme l'autre. Hein. La seule différence, c'est qu'il part pas. Il ne le dépense pas. Mais il fait comme l'autre. Identique. Ah, ça surprend. C'est sûr. Rappelez-vous, hein, le père leur partagea alors ses biens, ce qu'il était nécessaire pour vivre. Vous allez voir jusqu'où on va. Si le cadet demande son héritage, le fils aîné, lui, ne refuse pas le sien. Alors certes, il n'a pas demandé, il y en a un qui l'a fait pour lui. C'est facile. Et le petit leurre du verset 12 montre une complicité larvée chez le fils aîné, parce qu'il ne fait jamais barrage à la demande de son frangin. Pire même, on va aller à la fin de la parabole, verset 31. Regardez bien. Regardez ce que dit le père. « Mon père, mon enfant, lui dit le père, pardon, tu es toujours avec moi et... » C'est quoi dans le texte ?« Tout ce que j'ai est à toi. » Et voilà, il est là celui qui a racheté. Il est là celui qui a transformé la terre en espèce sonnante et trébuchante. C'est lui. C'est lui, là. C'est lui qui a dépossédé son père aussi. Celui à qui tout appartient maintenant. Vous voyez ? Il leur partagea ses biens. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Ainsi, nous découvrons qui est l'acheteur des pères au moment, des terres du père pardon, au moment du partage, celui qui va convertir en espèces sonnantes et trébuchantes les possessions terrestres du père. Et le fils aîné d'apparaître donc aussi comme celui qui a dépouillé gentiment son papa. Et ce faisant, Jésus nous amène au cœur du problème de cette parabole, qui n'a rien à voir avec le retour du frère, mais qui se concentre essentiellement sur le fils aîné. C'est pour ça qu'il faut rayer le titre. La parole ne parle pas du fils cadet, elle parle du fils aîné. Et elle se centre sur le fils aîné. Et c'est très intéressant parce que ce problème chez le fils aîné trouve sa source dans un orgueil démesuré, dans de la jalousie. Et cette jalousie va ressortir dans le texte, verset 29-30. Regardez bien. « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, et non pas mon frère, mais ton fils, ça arrive dans les familles, ça, quand nos enfants disent hey, « ta fille, ton fils voilà, », bon, ça arrive aussi. Mais quand ton fils est arrivé, pas revenu, arrivé comme s'il avait fait un grand voyage, il est revenu, là, tranquillement, il est arrivé. Non, non, c'est important. Celui-là, lui-là, l'autre, le truc, là, le machin qui est parti, là, tu sais, la chose qui a mangé tes biens avec des prostituées. Excusez-moi, mais comment il sait, lui ? Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent ? Où est-ce que dans le texte, il y a marqué qu'il a vidé des bouches, je ne veux pas dire forcément prostituée. Hein. Donc, où est-ce que il a su ? Supposition ou vérité ? Médisance ou affirmation ? Pour lui, l'autre, le truc, là, le machin, tu as tué le veau engraissé. Waouh. Deux versets, ça dépote. Cette prétention, cette espèce de regard complaisant sur soi, cette jalousie prend racine chez le fils aîné dans une surestime de soi, dans ce que la Bible nomme la propre justice. Je me crois meilleur que l'autre. Parce que ça fait vachement plus longtemps que je suis chrétien. Le frère aîné se trouve... se sent plus propre que son cadet, meilleur, n'est-ce pas ? Et cette prétention va le pousser à quoi ? Ne pas participer au banquet. Il va dire, oh, moi j'ai rien à faire avec lui, moi je ne mange pas avec lui. Ah, moi je ne mange pas avec lui. D'accord ? Et il ne va pas s'associer à la joie du Père, il va rester dehors, nous dit le texte, dehors de la maison. Et en restant dehors de la maison, il va donc obliger son Père à venir à sa rencontre. Pas de bol, ça se fait pas à l'époque. Inconvenant, inconvenant. Le père n'a pas à sortir supplier son fils. C'est inconvenant pour les auditeurs de Jésus. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. C'est humilier son père en public que de faire ainsi. C'est maudire son père. Même chose que le fils cadet. Intéressant, hein? Sa colère va s'exprimer autour du coup des festivités. Vous avez remarqué ? Moi, j'ai fait plein de trucs pour toi, t'as jamais rien fait pour moi, mais là, t'as tué le truc dont je rêve, le jambon, là. Non, c'est pas le jambon, c'est pas le droit. Le veau gras. L'insistance du fils aîné sur la débauche de son frère manifeste son incompréhension quant à la réaction de son père. Il se place, lui, maintenant, en position de victime. Vous avez remarqué ? Il dit, mais moi, tu m'as rien fait ! Alors que je le méritais. Je mériterais une médaille, moi, pour t'avoir servi. Et t'as même pas fait, mais même pas un chevreau. Hein. Rien, que dalle, nada. Il se place en position de victime. Et il fait Calimero, quoi. Il va jusqu'à préférer que son frère ne soit jamais revenu. Et une telle opposition au père est un affront. Il vient, sans s'en rendre compte, ou même simplement poussé par la colère, de maudire son père, lui qui a bien profité de la situation et qui n'a pas montré d'opposition au partage de l'héritage, le voici se présentant comme un propre juste. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Alors un homme avait deux fils. L'un le plus jeune qui demande à son père son héritage, l'autre l'aîné qui fait un scandale finalement à la fin de l'histoire, un caca nerveux, comme on dirait, pour manifester son opposition à la décision du père. Mais ces deux hommes ne sont pas des inconnus. Ces deux hommes, Jésus les connaît très bien. Et quand il est en train de raconter la parabole, il s'adresse à eux, et pour la comprendre maintenant, on va quitter le verset 11 pour aller au verset 1 et 2 de l'évangile de Luc, du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Regardez ce que ces versets-là disent. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux ». C'est bizarre, Jésus raconte une parabole où il est question de deux fils et il s'adresse à deux groupes distincts, les collecteurs d'impôts et les pécheurs d'un côté, et puis les pharisiens, les docteurs de la loi, de l'autre côté. Nous comprenons alors que le fils cadet, c'est l'image du premier groupe, les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Comme le fils cadet, ces hommes et ces femmes sont nommés par cette appellation pour marquer le fait qu'ils ne respectent ni la tradition, ni la société de leur temps, qu'ils ont tourné le dos à leur histoire, à leur famille, au code de l'époque, à la tradition spirituelle. Ils n'observent jamais la loi de la Torah, ils n'observent pas les lois rituelles. C'est des gros méchants. Dieu ne peut rien avoir à faire avec eux. C'est des pécheurs. Ils ont rejeté le Père et les bénédictions du Père. Et cette phrase caractérise des personnes qui vivent sans Dieu, qui ont rejeté les bénédictions de Dieu, qui ont rejeté les bénédictions du Père et pour qui le Père céleste n'existe pas. Et avant de rencontrer Dieu, avant de vivre avec Dieu, nous étions de ces gens-là. Et même parfois encore, nous le sommes lorsque nous préférons nos propres forces à celles de Dieu, lorsque nous décidons de vivre en le mettant en périphérie de nos vies, nous reprenons parfois ce statut-là. Et notre regard sur cette parabole s'éclaire et nous comprenons à la lecture des versets 1 et 2 qui est le fils aîné. Regardez le verset 2, ce qu'il est dit des pharisiens. Il est dit qu'ils murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. Nous, on ne le fera jamais. Nous, on n'entrera pas dans cette maison. » Et nous trouvons là la même réaction que celle du fils aîné dans la parabole du fils prodigue. C'est donc aux pharisiens que Jésus s'adresse. C'est bien donc du fils aîné dont il est question en premier lieu dans cette parabole. Et Jésus de montrer par cette phrase « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres », les raisons de ce drame, ce ne sont pas les méfaits du fils aîné qui l'empêchent de vivre l'amour du Père, mais sa propre justice. Et il va nous plonger dans les motivations du fils aîné, n'est-ce pas ? Il a acquis les biens de son père, il veut les faire fructifier en prenant ses propres décisions, ses propres initiatives. Il veut s'affranchir de l'autorité de son père pour faire ses propres choix. Et pour ce faire, il va aller se lancer dans un bras de fer avec son père. Allant jusqu'à contester les marques de son amour, il est prisonnier de la culture du mérite et de la tradition. Puisque je t'ai toujours obéi, papa, tu dois aujourd'hui m'obéir à ton tour. Et cette parabole vise les pharisiens et met en avant que l'obéissance scrupuleuse à la loi de Dieu peut devenir une stratégie pour se rebeller contre Dieu. Je sais, c'est pas facile de lire le texte comme cela, mais moi je pense que c'est comme ça. C'est tellement facile de pointer le péché quand il est visible chez l'autre. C'est tellement aisé de le faire tout en camouflant le nôtre, parce que le nôtre, il n'est pas totalement su et un peu moins visible, peut-être. Et combien, moi, je me retrouve dans cette attitude, n'est-ce pas, de jugement de l'autre, parce qu'effectivement, voilà, il arrive dans l'église, et puis, voilà, ils ne sont pas mariés, ils ont concubinage, oh, honte à eux, un péché par excellence. Mais suis-je prêt, moi, à dévoiler mes luttes cachées et à les placer au regard de mes frères et sœurs, au risque d'être moi-même jugé comme je juge? Nous avons souvent une définition du péché qui confond le péché lui-même avec les conséquences de ce dernier. Nous considérons que le péché, c'est mentir, voler, vivre comme ceci, vivre comme cela, mais ça, ce ne sont que les conséquences du péché. Il nous faut revenir à une vraie définition du péché. Le péché, c'est lorsque moi je décide de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le reste n'est que conséquence du péché. Et donc chaque fois que moi, Fabien, dans ma vie, je décide que ça c'est bien et que ça c'est mal, je suis un pécheur et je vis le péché. Et à chaque fois que je fais ça, je suis comme le fils aîné qui a décidé que c'était bien d'aller prendre l'héritage, le fils cadet, c'était bien de prendre l'héritage de papa et d'aller vivre ailleurs. lorsque nous confondons le péché lui-même avec les conséquences du péché, c'est ce qui nous permet de définir le péché par sa forme visible et de le montrer du doigt avec autant de force. Mais apprenons à développer ou à définir le péché non pas par sa forme visible mais par son essence. Et soyons suffisamment honnêtes pour nous placer sous le regard de Dieu. Lorsque le fils est né à l'occasion de réjouir le cœur de son père, son refus de réjouir le cœur de son père trahit sa motivation égocentrique. La restauration du fils cadet va dévoiler quoi ? Le véritable désir de son cœur. En fait, la restauration du fils cadet dévoile chez le fils aîné les véritables désirs de son cœur, et le véritable désir du cœur du fils aîné, c'est d'être le patron. L'autorité sur l'autorité. J'ai deux questions, ou plutôt trois, pour terminer ce partage autour de cette parabole qui est magnifique et qu'on pourrait encore creuser dans plein de sens. Ne nous arrive-t-il pas de chercher à influencer Dieu par notre obéissance ? Combien de fois je dis au Seigneur, « Ah, Seigneur, quand même, t'exagères. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, hein, t'aurais quand même pu me donner ça. Ça fait des mois que je te le demande, t'assures pas un cachou, quoi. » C'est pareil, c'est un peu ça. Est-ce que nous utilisons notre moralité pour exiger de Dieu une action ou un don ? Combien de fois est-ce que nos regards se figent sur le péché de l'autre, au point que nous ne voyons plus la poutre qui est dans notre œil ? Alors un homme avait deux fils. La question du jour, c'est: lequel sommes-nous ? J'invite à prier.